On est en 2019 et le mur de Donald Trump fait toujours la manchette. Salut Mathieu.
Bonjour.
Ben d'ailleurs, Donald Trump, je voyais ça dans les nouvelles là, tout à l'heure, qui s'apprête, semble-t-il, à se rendre à la frontière. Que dire de plus sur ce fameux mur?
Ben, en fait, c'est que c'est une question qu'il faut réussir à détacher mentalement de Donald Trump. Parce que le personnage ne nous est pas sympathique, pour le dire poliment, pour ne pas dire franchement antipathique. Mais la question qui est posée, c'est devant les vagues d'immigration massive qui déferlent aujourd'hui et qui marquent notre époque, est-ce que les pays occidentaux sont en droit de faire respecter leurs frontières d'une manière ou de l'autre? La question se pose aux États-Unis, elle se pose en Europe, elle se pose aussi, dans une moindre mesure, chez nous avec le chemin Roxham, est-ce qu'il est permis de dire la frontière, on va la marquer physiquement, la frontière, nous allons la défendre pour éviter justement que l'immigration illégale, sous le signe normalement de la demande du droit d'asile, ne devienne un chemin détourné pour rentrer dans nos pays. Ouais. Or, Trump le fait avec brutalité, avec un manque d'humanité souvent, mais le fait qu'on propose un mur aujourd'hui ne devrait pas être rejeté en soi. Il est possible qu'il faille aujourd'hui marquer physiquement les frontières des pays occidentaux.
Et en toute équité, Mathieu, ce mur-là existe déjà en partie et ce n'est pas Donald Trump qui l'a construit.
Non, en effet, et Barack Obama a déjà voté en sa faveur, et donc il y a plusieurs personnes qui ont déjà soutenu ce mur-là. Mais puisqu'aujourd'hui c'est rendu l'enjeu trumpien par excellence, il s'est fait élire en partie là-dessus, là, ça polarise beaucoup la politique américaine. Mais la vraie question, c'est pas le mur, la vraie question, c'est comment contenir l'immigration massive illégale. Il faut repenser à la question de la caravane des migrants montée du Honduras jusqu'à la frontière, et qui croyait pouvoir traverser dans la nuit du 31 de décembre au 1er janvier, il y a eu 100 clandestins qui ont cherché à traverser de manière forcée la frontière. Alors, on est devant des problèmes comme ça aujourd'hui. Et la réponse humanitaire qui consiste à dire, mais il faudrait simplement tendre la main, accepter généreusement, s'ouvrir, eh bien, c'est une réponse qui nous rappelle que l'enfer est pavé de bonnes intentions, parce que l'immigration massive, ses effets, c'est déstructuration sociale, conflits sociaux, conflits ethniques même, devant tout cela, il est nécessaire de rappeler que les frontières ne sont pas seulement des tracés arbitraires sur le sol.
Ouais. Marie-Chantal Chassé et les limites de la parité. Bon, on sait que M. Legault a procédé à ce remaniement ministériel. Mme Chassé qui probablement suivait des cours du soir et peut-être même de nuit pour tenter de se rattraper dans sa façon d'expliquer aux médias. Mais on a bien vu que ça ne suffisait pas. Évidemment, j'ai caricaturé, mais quoi qu'il en soit, tu nous ramènes ça, toi, aux limites de la parité.
Oui, parce que Mme Chassé, vous parlez d'une femme de qualité, j'en doute pas, mais elle n'était manifestement pas faite pour ce type d'emploi politique. On la remplace par un type qui, inversement, est un politicien professionnel, un politicien de métier, Benoît Charrette. Or, plutôt que de s'intéresser simplement au fait qu'on a remplacé une mauvaise ministre par un bon ministre, probablement, à tout le moins c'est ce qui risque de se passer, une partie du milieu médiatique et des politiques aussi, Hélène David du Parti libéral, disent « Ah, ben là, ce qu'on doit surtout retenir ici, c'est que c'est la fin de la parité. Et on doit s'en désoler. » Alors moi, j'ai beaucoup de réserves par rapport à ça, parce que ce que j'entends, si je traduis en français courant de tels propos, c'est en gros que Benoît Charrette n'aurait pas dû être choisi parce que c'est un homme.
Ouais.
Il aurait fallu discriminer contre lui parce que c'est un homme. Et inversement, on aurait dû remplacer Chassé par une femme parce que c'est une femme, quel que soit le critère de compétence.
Ouais.
Or, est-ce qu'on peut dire que Legault a décidé de prendre juste la meilleure personne pour ce poste sans se demander d'abord et avant tout si la personne en question représentait les hommes ou les femmes? Est-ce qu'il a simplement choisi un individu?
Ouais.
Est-ce que c'est possible de se dire ça encore aujourd'hui? Manifestement, c'est difficile.
Et en tenant compte qu'il n'a, à toute fin pratique, pas le droit de se tromper deux fois, là. En tout cas, pas deux fois dans la même année, là.
Et surtout pas sur ce poste-là, j'ajouterais.
Ouais, ouais.
La question de l'environnement, c'est à la fois le point faible de Legault et là où il peut surprendre aussi un peu.
Ouais.
Alors, s'il avait dû capituler devant ce principe, j'ai l'impression qu'il se serait mal servi. Mais apparemment, aujourd'hui, encore une fois, le principe de compétence doit être subordonné à d'autres considérations théoriques.
Ouais. Et Mathieu, peut-être ajouter à ça également certains des arguments ou des commentaires commentaires qui sont venus des partis d'opposition, à savoir que, par exemple, François Legault avait nommé, comment dirais-je, avait nommé ses ministres en se donnant le droit de s'être trompé. Et moi, je pense que il serait peut-être à propos de revenir sur le fait que, à part François Legault lui-même et une autre personne que j'oublie, là, il n'y a pas grand monde qui avait de l'expérience en politique, c'est-à-dire pas en politique, mais qui avait déjà occupé des fonctions dans un gouvernement, dans un gouvernement. Et puis, deuxièmement, ben peut-être, mis à part René Lévesque en 76, qui était entouré de têtes extrêmement fortes, là, c'est peut-être pas donné à tous les partis qui prennent le pouvoir pour la première fois d'être aussi bien pourvus, là.
Oui, absolument. En fait, c'est Legault et Marguerite Blais ont eu l'exercice du pouvoir.
Oui, c'est ça.
C'est pas la norme dans la nouvelle équipe. Or, il y a une forme de tâton. C'est-à-dire, bon, on avance à tâton, on n'est pas certain, on essaie, on regarde ce que ça peut donner. Et là, il a décidé de corriger rapidement plutôt que de laisser en place une dame qui était le maillon faible du gouvernement, qui humiliait le gouvernement et qui s'humiliait elle-même. Il faut bien le dire. C'était un peu triste quand même.
À chaque
pour
fois,
elle.
Ouais.
C'est, alors, dans les circonstances, il a avancé à tâtons. Je considère que c'est plutôt une marque d'intelligence de la part du nouveau gouvernement. Aurait-il dû attendre 6 mois, comme certains le disent? Non, j'ai l'impression qu'il a compris ça rapidement. Et puis, je crois que la première soulagée là-dedans, soyons honnêtes, c'est probablement la dame Chassé.
On revient sur les excuses de Robert Lepage pour dire quoi, Mathieu?
Ouais, ben, en fait, ça se passait en Noël le jour de l'an, et je trouve qu'on en a très, très peu parlé alors que c'était très important. Robert Lepage, on le sait, en 2018, s'est vu annuler 2 pièces, Canada et Slav. D'abord, par des groupes qui en appelaient à la censure, parce que Lepage faisait de l'appropriation culturelle, disait-on. Sur le coup, Lepage avait défendu la liberté d'expression, c'était opposé à la censure. Et là, en Noël le jour de l'an, il a publié une lettre, comme s'il voulait que ça passe sous le radar, où vraiment, il s'alignait sur ses accusateurs. Il s'excusait d'avoir péché, finalement, contre le politiquement correct. Il se couchait devant les codes du politiquement correct. Donc, on a vu vraiment une manifestation d'un Lepage censuré qui, finalement, se ralliait à ses censeurs. Un Lepage humilié qui se ralliait à ceux qui l'avaient humilié, comme s'il ne pouvait plus endurer le fait d'être dans le camp des critiques du politiquement correct, comme s'il voulait retrouver la bonne conscience unanimiste et progressiste d'un certain Québec. Et on a vu Robert Lepage donc nous faire une démonstration de qu'est-ce que c'est la puissance de certaines minorités idéologiques radicales qui peuvent amener à se coucher n'importe qui.
Mais dans ce texte-là que j'ai lu, Mathieu, est-ce qu'il n'y avait pas... est-ce que Robert Lepage n'a pas senti également le besoin... Écoute, puis on pourrait penser que c'est à tort, mais peut-être aussi à raison. Moi, je sais pas. J'ai pas vu la pièce. J'ai pas lu les textes de cette pièce-là non plus. Mais il reconnaissait quand même qu'à certains égards, il avait peut-être manqué de précision ou de finesse dans la façon de présenter sa pièce. Est-ce que...
je crois là-dessus. Ça, pour moi, ça, il ne me bluffe pas. Quand il dit, en plus, c'est au nom du dialogue, tous les éléments d'une autocritique à la soviétique étaient dans son texte. D'abord, avant tout, il fait l'éloge de ses censeurs d'hier, hein, des gens de qualité, nuancé, modéré, sympathique, souriant. Bon, OK, il donnait un peu plus le bon Dieu sans confession. Ensuite, il dit, oui, il y avait les problèmes esthétiques de ma pièce relevaient peut-être en fait d'un défaut éthique, c'est-à-dire le manque de représentation de la diversité. Ouais. Ensuite, il dit, pour les prochaines pièces, je vais quand même me soumettre au regard de ces gens pour m'assurer de ne pas heurter la diversité. Donc, non, j'ai l'impression que on est devant un esprit qui s'est tout simplement aligné. Il a dit qu'il a fait tout ça au nom du dialogue. Bien franchement, dans les circonstances, le dialogue est l'autre nom d'une forme de lâcheté.
Merci Mathieu, à la semaine prochaine.